des Huillets. C'est au 33 rue des Vignoles, dans le 20e, à Paris, 18 mai, 15h. Et c'est Pix 94 qui nous propose ça, cette projection débat. Je ne sais plus où j'en suis. Je n'ai pas plaire partout, comme d'habitude. Voilà. Un appel de l'AFA pour soutenir des camarades italiens.
Ah oui,
appel
oui,
à
oui.
rassemblement, solidarité avec les compagnes et compagnons de Rome contre leur expulsion programmée par le pouvoir néofasciste. Donc, effectivement, ils avaient un lieu de vie où ils sont, ils vont être expulsés. Donc, vous pouvez les soutenir en écrivant à Cafiero Ferroroma. Eh bien, écoutez, vous irez sur Internet. En tout cas, il y a un rendez-vous à la Librairie Publico, 55 rue Amelot, dans le 11e, le 17 avril, à 19h. Voilà. Et puis, une autre petite aussi, c'est le colloque du 27 avril 2024, éducation autogestionnaire coopérative et libertaire, divergence et convergence, c'est à l'espace AERI, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix de Chavaux. Donc 27 avril 2024, c'est toute la journée, pratiquement de 9h30 jusqu'à la clôture après 19h. Et vous aurez des informations sur notamment le lycée autogéré de Paris, des nouvelles, puisqu'ils sont en bien mauvaise posture en ce moment. Voilà, j'ai fait vite pour laisser la place au Protons Rebif, il est 21h. Merci Jean-Michel d'être venu
merci
pour la
vous,
troisième
merci
fois,
vous,
ça nous a fait plaisir
fois.
Encore une fois. Merci Jean-Manuel, t'as très bien animé l'émission. Merci Bénédicte d'avoir fait la technique. On espère le 29, hein, parce que Eric n'est pas venu, j'ai carrément oublié qu'il y avait une émission ce moment. C'est dit. Merci à tous, au revoir.
Au revoir.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Pleure en sourdine, que j'ai le cœur au froid, je mets ma pèlerine et je vais chez François. Dans cette chaumine, la rue Quincampoix, qui a ses grises mines, j'ai mon feu de bois. Quand ma ville elle mine, se moque de moi, je pose ma mandoline et je vais chez François. Dans cette vitrine, les filles de joie, ne vous en chagrinent, sont filles de roi. Que fièvre me mine, ou qu'un mal me broie, foin de médecine, je vais chez François. Dans cette officine, de mauvais aloi, la tendre Chopine ne soigne que moi. Que brise marine me tente parfois, je bouche mes narines et je vais chez François. Dans cette berline, blottie à l'étroit, je pars pour l'Argentine sur mon pas de froid. Que la mort combine mon dernier tournoi, au diable matine, j'irai chez François. Sur cette colline, mon caveau à moi, il y a une orpheline en forme de croix. Quand je pleure en sourdine, que j'ai le cœur en froid, je mets ma pèlerine et je vais chez François.
Radio Libertaire 89.4.
Le Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
marche.
Voilà, bonsoir. Donc, nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Vous venez de l'entendre dans le générique. C'est bien le Proton sur Rebif. Ce soir, je suis Nestor Potkin et à la technique, nous avons Zorion qui essaye pour la première fois la technique dans ce studio. Et nous allons parler ce soir d'un livre qui connaît un certain succès, qui est un livre mince, mais qui est un livre important. Il s'agit de l'ouvrage de Johann Chapoutot, Libre d'obéir, libre au pluriel, le management du nazisme à aujourd'hui. Alors moi, personnellement, quand j'ai vu ce titre, évidemment, ça m'a immédiatement parlé, parce que je me suis dit, mais bien entendu, il y a des points communs très clairs entre le nazisme et le management. Et Johann Chapoutot est un historien absolument spécialiste du nazisme. Il a donc procédé à l'analyse de toutes ces similitudes entre ces deux choses abominables. Et il a eu une idée fort intelligente parce qu'il s'est rendu compte que, comme on le sait, un grand nombre de nazis se sont recyclés. Ils étaient jeunes quand Hitler est arrivé au pouvoir, ou ils étaient jeunes quand eux-mêmes sont arrivés dans leurs différentes carrières nazies un peu plus tard. Et puis, ils ne sont pas morts à la guerre, et donc ils avaient 30 ans, 40 ans. Et ils ont été recyclés par l'Allemagne fédérale, également l'Allemagne communiste d'un autre côté. Mais là, ce dont on va parler, c'est bien entendu des gens qui ont été recyclés dans l'Allemagne fédérale. Et Johann Chapoutot s'est penché sur leur carrière et il s'est aperçu qu'un certain nombre d'entre eux étaient devenus non seulement des gens respectés dans l'univers du management allemand, mais même des gourous du management allemand. Et je vais beaucoup lire et beaucoup citer ce livre. Il dit déjà dans son prologue, page 13, il dit « Explorer la vie et l'univers de ces gens-là conduit sur des terres étrangères, lointaine, pétrie d'angoisse et de brutalité, des temps révolus, qui ont pris fin absolument, pense-t-on, en 1945. Il y a pourtant, à les lire, des effets de contemporanéité, des moments où, au détour d'un mot, d'une phrase que l'on lit, le passé apparaît présent. J'ai eu ce sentiment il y a quelques années, en lisant et en commentant un des textes les plus violents par sa cinglante brièveté de Bacque. Alors Bacque, c'est l'un de ces bons hommes. Pour préparer et accompagner la conquête et la colonisation à l'Est, à la veille de l'assaut contre l'URSS, le secrétaire d'État au ministère de l'Approvisionnement et de l'Agriculture du Reich rédige un vade-mecum de 3 pages en 12 points, une liste d'instructions aux administrateurs allemands du plan de 4 ans et de son ministère qui vont officier à l'Est, donc en Russie, en Pologne, etc. L'exotique, dans ce texte, nous en avons déjà parlé. Son racisme à l'égard des Russes, dialecticien, menteur, fanatique, arriéré. Son exaltation du seigneur et maître allemand, Herrenmensch, face au sous-homme soviétique, Untermensch. Sa brutalité coloniale qui fleure la chicotte et le camp. Mais il y a aussi dans ce texte des éléments familiers, des choses que l'on semble avoir entendues ou lues ailleurs dans d'autres contextes. Herbert Backe exige par exemple de ses agents la performance. L'important est d'agir, de prendre des décisions rapidement, sans s'embarrasser de scrupules bureaucratiques, keine Aktenwirtschaft. Ne parlez pas, agissez, sans plainte ni complainte à l'égard des tutelles. Les tutelles fixent un objectif que les agents doivent atteindre sans perdre de temps, sans demander de moyens supplémentaires, sans gémir ni fléchir face à la difficulté de la tâche. L'important est que la mission soit accomplie, peu importe comment. Fin de citation. De fait, on commence à retrouver des tas de choses du management. Vous allez voir, ça va continuer. Je reprends. Bacque recommande la plus grande élasticité dans les méthodes employées. Ces méthodes sont laissées à l'appréciation de chacun. En termes militaires, depuis le 19e siècle, cette conception du travail a un nom. Laufstrag-Taktik, soit la tactique par la mission ou par l'objectif. Et là, à nouveau, on connaît dans le management moderne, eh bien, c'est management par objectif. D'ailleurs, un des titres hiérarchiques maintenant très répandus dans les entreprises, c'est chef de projet. Une mission est donnée à un officier qui doit l'accomplir comme il le souhaite et comme il le peut, pourvu que l'objectif soit atteint. Élasticité. Et là, Chapoutot fait une parenthèse. On parlerait à présent de flexibilité, d'initiative ou d'agilité. Performance, objectif, mission, nous voilà en terrain connu. L'allosaure Backe, ce monstre archaïque et lointain en uniforme de SS, réintègre notre temps et notre lieu, car il en emploie les mots, il en utilise les catégories, il en pense et en vit les notions. Il se voit et se vit en homme performant, Leitungsmensch, et regrette que son protecteur et supérieur, Daré, c'était le grand ponte de l'agriculture dans le Troisième Reich, trop mou à ses yeux, soit un perdant, Versager. On pourrait sans problème traduire le mot par loser. Backe, comme tous les nazis, était convaincu que la vie était une lutte où ne s'imposent que les volontaires et les performants. Un jeu à somme nulle, où les perdants payent le prix fort de leur infériorité et de leur défaillance. Il était, comme tous ses collègues de travail et ses camarades de parti, un darwiniste social. Alors là, fin de citation pour l'instant. Je rappelle ce que c'est que le darwinisme social. Darwin est quelqu'un qui a rendu un service gigantesque à l'humanité en posant la théorie de l'évolution. Mais cette théorie de l'évolution, on le sait, a donné lieu, de manière, dans le domaine politique, à deux tendances opposées. Il y a ceux, et évidemment les anarchistes en particulier, Kropotkin en est l'exemple le plus célèbre, qui ont fait remarquer que l'évolution a favorisé l'entraide entre membres d'une seule espèce, voire, on le sait, il arrive que des espèces entre elles s'entraident pour survivre. Et puis il y a l'autre tendance politique qui n'a vu dans l'évolution que le combat pour la survie, et ceci a donné à très vite ce darwinisme social qui évidemment a été une excuse rêvée pour tous les dominants, pour tous les exploiteurs, puisque on a le droit de combattre, on a le droit d'asservir, on a le droit de rendre esclave, puisque c'est la nature, n'est-ce pas? Et puis arrive, je vais la reprendre, la citation de Johann Chapoutot, on est maintenant dans la page 15, il arrive un mot qui est également absolument fondamental. Les ressources étant limitées, les individus, et selon lui à travers le prisme du racisme, les espèces, se livrent un combat à mort pour y accéder et les maîtriser. Fin de citation. Et là, bien entendu, ce mot « ressources », il est central. Il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai commis une grave erreur. C'était un bac expérimental et j'ai pris le bac économie. Donc dès la troisième, on m'a flanqué des leçons d'économie. Et l'une des premières choses, l'un des premiers vocables que l'on a utilisé dans ces cours d'économie, c'était les ressources rares. Et la définition que nous donnait le professeur d'économie du capitalisme, eh bien, c'était l'art de gérer les ressources rares. Or, évidemment, si on pose que par définition les ressources sont rares, ça permet bien entendu de lancer tout de suite l'idée que pour avoir ces ressources rares, eh bien, on est obligé de combattre pour elles. L'entraide semble impossible. Notre Chapoutot continue, et là je vais reprendre la lecture de son ouvrage, ça sera page 16, et rappelons-nous qu'il parle là pour l'instant de ce bonhomme qui s'appelle Herbert Backe, qui fut donc l'un des grands administrateurs de l'agriculture, non seulement au sein du Troisième Reich, mais en particulier dans les territoires conquis, fort heureusement pas trop longtemps pour eux, en Russie, en Ukraine, etc. Dans ses responsabilités et en raison de ses hautes fonctions, Herbert Backe s'est intéressé à l'organisation du travail, à la direction des hommes, Menschenführung, à ce que nous appelons le management. Le management a une histoire qui commence bien avant le nazisme, mais cette histoire s'est poursuivie et la réflexion s'est enrichie durant les 12 ans du Troisième Reich, moment managérial. Incidemment, je trouve ça mignon et en même temps très révélateur d'appeler le Troisième Reich un moment managérial. Je continue la citation, mais aussi matrice de la théorie et de la pratique du management pour l'après-guerre. La prise de conscience, après 1945, que le crime de masse avait été une industrie, cette prise de conscience a suscité des réflexions dures et amères sur l'organisation capitaliste et sur notre modernité. Un sociologue et penseur aussi avisé que Zygmunt Bauman a marqué les esprits en publiant « Modernité et Holocauste », un livre que je ne saurais trop recommander, et en faisant prendre conscience que l'absolue horreur des crimes nazis était peut-être moins archaïque que contemporaine. Une certaine organisation économique et sociale, une impressionnante maîtrise de la logistique ont rendu possible, sinon favorisé, une série de crimes que l'on attribuait spontanément à la plus arriérée des barbaries, plutôt qu'à l'ordonnancement policé d'une entreprise résolument moderne. Et d'ailleurs, tant Bauman que Giorgio Agamben, le philosophe italien, voient dans le camp de concentration bien sûr, le lieu paradigmatique du contrôle social, de la hiérarchisation et de la réification caractéristique, selon lui, de notre maternité. Et de fait, ces managers qui déplaçaient des populations, qui affamaient des territoires et qui prônaient l'exploitation des énergies vitales jusqu'à épuisement total avec un détachement professionnel et un sang-froid, une décence, disait Himmler, sont tout à fait remarquables. Et Chapoutot continue, page un peu plus loin, mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire auparavant. Tout ce paragraphe sur le camp m'a, moi, fait penser, m'a donné dans la tête une expression très simple, « meurtre par le travail ». Comme vous le savez, quand on entrait à Auschwitz, bien, il y avait une grille en fer forgé avec marqué « Arbeit macht frei », « Le travail rend libre », ce qui était évidemment stupéfiant pour un lieu où précisément il était planifié, c'était dès le départ l'idée que avant de tuer les gens, on allait se servir d'eux au maximum, on allait les tuer par le fait de ne pas les nourrir et de les faire travailler extrêmement. Je rappelle que les camps de concentration, il y a quelque chose de très simple. Toutes les femmes, sauf un Ravensbrück, mais toutes les femmes et tous les enfants étaient immédiatement exterminés. Et puis, les hommes devenaient des esclaves qu'on faisait travailler un maximum et qu'on nourrissait le moins possible. Et s'ils mouraient, eh bien, il n'y avait strictement aucun problème, puisque, de toute façon, il en arrivait constamment qui allait renouveler la force de travail, si l'on ose utiliser ce mot. Mais Chapoutot se demande, et ça va être le propos de son livre, pourquoi, dans quel contexte et pour répondre à quel besoin, les nazis ont-ils réfléchi à l'organisation du travail, à la répartition des tâches et à la structuration des institutions dans l'administration publique et dans l'économie privée. Quelle pensée du management ont-ils développé? Que devenait le travail, l'individu ou encore le service public et l'État dans ses réflexions? Et là-dessus, on verra un peu plus tard que l'une des choses qui a été dominante, c'est une idée extrêmement simple. Quand les nazis se sont dit « on va conquérir l'Union soviétique », ils se sont dit « au lieu d'être tant de millions d'Allemands sur un territoire donné, on va être tant de millions d'Allemands, toujours le même nombre, mais sur un territoire considérablement plus élevé. » Et par conséquent, il va falloir trouver de nouvelles méthodes pour gérer ces territoires avec le même nombre de fonctionnaires. Et c'est là qu'ils se sont souvenus de quelque chose qui avait été plus ou moins explicité par l'état-major prussien. Oui, l'état-major prussien, Frédéric le Grand, etc. Et dans l'armée prussienne, quand on dit armée prussienne, évidemment, quand on n'est pas prussien ou pas allemand, on pense tout de suite à l'idée, mais c'est l'obéissance absolue, c'est les claquements de talons. En réalité, dans l'armée prussienne, puis dans l'armée nazie, l'idée était que les officiers, voire les sous-officiers, on leur fixe une tâche, on leur fixe un objectif, vous voyez ce mot d'objectif qui revient, et on leur donne l'autonomie des moyens. C'est-à-dire, on dit, tu dois prendre cette colline, tu fais comme tu veux, mais tu prends cette colline. Et l'officier ou le sous-officier peut à ce moment-là décider des moyens de comment il va prendre cette colline comme il veut. En apparence, quelle exaltation de la liberté. Oui, mais c'est une fausse liberté, bien entendu. Et là, c'est une fausse liberté au sens où les marxistes parlent de fausse conscience. Parce qu'on a l'autonomie des moyens, oui, mais on ne peut jamais participer à la définition ou à la fixation des objectifs. Et ceci va évidemment poser des problèmes psychologiques et politiques très clairs. Et pour ma part, j'appellerais ça la prostitution de la liberté. Et quand je dis prostitution, c'est dans les deux sens. C'est le sens du macro à la prostituée, donc du dominant au dominé. Et puis, c'est dans le sens de la prostituée à son client, donc dans le sens entre dominés. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. La musique, c'était Vivaldi, les Concerti Grossi, I Solisti di Zagreb, dans la série de concerts appelée L'Estro Armonico, et c'était un allegro, et c'était drôlement bien. Alors, nous continuons à parler du livre de Johann Chapoutot, « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui ». C'est paru dans NRF Essai, donc la collection chez Gallimard. Et j'expliquais le problème qu'avaient les nazis. Ils se disaient, on va devoir gérer des territoires absolument colossaux avec le même nombre de fonctionnaires. Et Chapoutot, de préciser la chose, rappelons tout simplement que l'armée nazie, par exemple, a multiplié ses effectifs par plus de 50 en quelques années. Et bien entendu, quand on fait ça et qu'on est une armée, eh bien on a besoin de cadres. Or, il se trouvait, et c'est ma foi, l'une des raisons du succès du nazisme, il se trouvait que la République de Weimar, donc la République démocratique avant le nazisme, elle avait produit un très grand nombre d'étudiants. Manque de bol, que se passe-t-il ? 1929, ces étudiants fraîchement sortis de l'université se retrouvent dans une économie ravagée avec quasiment aucune perspective d'emploi. Et qu'est-ce qui arrive à les recruter ? Les nazis. Les nazis qui recrutaient dans la SA et qui commençaient à recruter dans la SS, et puis bien entendu, dès que les nazis sont arrivés au pouvoir, là, l'État nazi et puis toutes les organisations diverses et variées des nazis ont aspiré, c'est le cas de le dire, tous ces universitaires qui auraient été sans ça, sans emploi. Et puis, Chapoutot nous rappelle ceci, que dans le nazisme, et là on va parler de, je vais vous lire quelque chose qui est page 28, il va dire ceci. L'obsession de la vie, de la proximité à la vie, de la vitalité, et le rejet de toute procédure ou système étranger à la vie peut nous surprendre. Alors, il dit ça parce qu'il a montré dans les pages précédentes à quel point ces mots reviennent constamment dans la, si on ose la qualifier comme ça, dans la pensée administrative, managériale, nazie. La métaphore organique, le registre biologique sont omniprésents. Rien d'étonnant toutefois dans le discours d'un nazi convaincu, certain que le temps de la loi, entre parenthèses abstraite, écrite, intellectuelle et morte, a pris fin, et que celui du droit, concret, oral, instinctuel et vivant, a recommencé en 1933. La vie est flux, et tout obstacle à la circulation des forces et des fluides engendre une thrombose dangereuse pour la race, voire fatale. Et là-dessus, il y a quelque chose qui, a priori, peut sembler surprenant, parce qu'on se dit à nouveau, mais les nazis, ça devait être des règlements dans tous les sens et tous les azimuts. Oui, mais pour les nazis, la loi, c'était quelque chose de juif. Eh oui, les Juifs, ils ont la Bible, et dans la Bible, il y a les 10 commandements, et c'est la raison pour laquelle, pour les nazis, la loi, c'est l'État. Mais grattons un petit peu, parce que fort heureusement, les psychanalystes en particulier ont complètement décortiqué ce qu'il y avait dans la pensée nazie. Cette obsession de la vie, c'est en fait une obsession de l'énergie. Et là, il n'y avait pas besoin d'être psychanalyste, les nazis eux-mêmes le disaient. Mais l'énergie pour les nazis, c'est l'érection. Alors l'érection, alors là je parle au sens phallique, pénien du terme. La vie, pour le nazi, pour toute cette névrose profonde nazie, c'est je continue à bander. Si je ne bande plus, je ne suis plus un homme. Si je ne suis plus un homme, je n'existe pas. Rappelons que Hitler est quelqu'un qui a eu un père absolument abominable et que Hitler, en même temps, n'a jamais osé se dresser contre son père. Mais en revanche, pour pouvoir quand même se dresser quelque part, eh bien, le restant de sa vie va être cette obsession de l'érection, du combat. Et paradoxalement, il va prendre quand même aussi pour modèle son père, fonctionnaire parfait, si l'on en croit ce qu'il en a dit. De même, on sait que dans l'univers nazi, il y a une répression de l'homosexualité, donc évidemment une homosexualité pervertie, absolument évidente. Je me souviens pour ma part, il y a eu pendant un certain temps une librairie facho rue de la Sourdière. Et je passais à l'époque souvent rue de la Sourdière. Et ça m'amusait parce que je voyais ce qu'il y avait comme décoration, c'était des statues qui se trouvent à Rome, des statues fascistes mussoliniennes, d'hommes nus. Puis alors des hommes nus, magnifiques, avec des pectoraux, avec des cuisses, avec tout ce qu'il fallait, et dont il était évident que le sculpteur était profondément homosexuel. Également, donc, bien entendu, un virilisme délirant. Et cachant tout ça, ben le vide à l'intérieur, la terreur d'être vide, de ne pas exister. Et également, on sait que c'est Hegel qui a réussi à mettre ça en évidence. Hegel a parlé de la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître veut être maître parce qu'il veut être reconnu par l'esclave. Et avec la psychanalyse, on ajoute ceci. Si effectivement on a quelqu'un qui, au fond de lui, se sent vide, se sent petit, eh bien il a besoin des esclaves, il a besoin de dominer pour se sentir lui exister. Et donc c'est pour ça qu'il a besoin de devenir le maître. Page 34 du livre de Johann Chapoutot, Le nazisme, le Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, il va parler de ce problème donc qu'avaient les nazis avec l'État. Parce que l'État, officiellement, c'est le règne de la loi. Et je viens de dire, pour eux, la loi, c'est le juif, donc c'est l'ennemi. Alors voici ce qu'en dit, entre autres choses, Chapoutot. La constitution d'une fonction publique professionnelle a eu pour effet désastreux de faire de la règle et de l'État une fin en soi. Alors que toute institution ne doit être qu'un moyen en vue d'une fin et permettre à la race germanique de se développer et de se déployer. Première fin de la citation. Là, bien entendu, quand je disais la constitution d'une fonction publique professionnelle, c'était le processus, en gros, normal, en tout cas très répandu, qui s'est passé dans les États européens. Alors, c'est amusant, les nazis, là-dessus, accusaient, pas entièrement à tort, les Français d'avoir lancé ce processus avec Richelieu, puis avec Louis XIV, et encore plus avec Napoléon. Je reprends la citation de Chapoutot. Adolf Hitler ne dit pas autre chose dans un discours prononcé lors du congrès du, entre guillemets, « mouvement » à Nuremberg en 1934. Ce n'est pas l'État qui nous donne des ordres, mais nous qui donnons des ordres à l'État. Ce n'est pas l'État qui nous a créés, mais c'est nous qui nous créons notre État. L'État, écrit Hitler dans Mein Kampf, est un moyen en vue d'une fin, et cette fin n'est pas administrative ou abstraite, elle est bel et bien concrète et biologique, c'est le renforcement et la perpétuation de la race. Et là, c'est très simple. Remplacez le mot race par le mot profit, et vous avez très évidemment le management, où tout, absolument tout, doit servir à un seul but, le profit. Ça n'est pas administratif, ça n'est pas abstrait, c'est complètement concret, il s'agit du profit pour le management. Et puis je voudrais juste dire ceci, c'est que cette apparente hostilité des nazis aux fonctionnaires, et en particulier aux fonctionnaires inamovibles, eh bien, vous le savez peut-être, très récemment, Stanislas Guérini, alors Guérini, moi j'adore ce nom parce que ça me fait penser au criminel dont Stanislas Guérini, eh bien, l'un des ministres du gouvernement de M. Macron, qui veut supprimer les fonctionnaires à vie. Et à nouveau, voilà l'un des aspects de la bêtise profonde de M. Macron. Le gars ne comprend pas pourquoi, en France, on avait décidé de faire en sorte que les fonctionnaires soient fonctionnaires à vie. Souvenons-nous de ceci, jusqu'en gros à Napoléon, les fonctionnaires français sont corrompus jusqu'à la moelle. Je rappelle qu'en France, on payait les juges. C'est-à-dire qu'on payait, je veux dire, on avait un procès, eh bien le procès était gagné par celui qui avait donné le plus grand pot de vin au juge. La France a été un pays monstrueusement corrompu. Or, depuis en gros Napoléon, eh bien, honnêtement, on est franchement pas très corrompu par rapport à la plupart des autres pays du monde. Et l'une des raisons est celle-ci. Un fonctionnaire que l'on voudrait corrompre directement, brutalement, en disant « écoutez, je vous passe 5000 euros et vous me faites ceci, vous me faites cela », bah, il compare les 5000 euros de maintenant à l'éventualité de perdre son travail, alors que, s'il n'accepte pas votre corruption, il aura un emploi à vie. Donc, quoi qu'on puisse penser du statut de l'administration, vouloir bousiller l'emploi à vie des fonctionnaires n'est pas nécessairement une idée particulièrement rusée. Notons également, et c'est Chapoutot qui fait ça, que je citais simplement la phrase de Chapoutot, l'essence allemande, par rapport à la dissipation latine, aux trans noires ou à l'anarchie juive, est toute d'ordre et d'unité, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Et ajoute Chapoutot, on remarque au passage qu'il n'est pas question de Einstein. Et, paradoxalement, il va se passer ceci. Alors que les nazis rêvent de cette unité de la race, que toute la race allemande pense de la même manière et suivent exactement les ordres du Führer, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la réalité? L'État nazi, c'est le bordel. Alors quand je dis l'État nazi, on va dire la structure globale nazie, c'est un bordel noir. C'est un bordel à tel point que les historiens modernes ont créé un mot que je n'avais pour ma part jamais vu avant le livre de Chapoutot, la polycratie. Alors qu'est-ce que c'est que la polycratie? P-O-L-Y, puis cratie. Ben, c'est plusieurs pouvoirs. Or, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. Il y avait le pouvoir de l'État. D'ailleurs, dans l'État, il y avait le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'État prussien. Ensuite, il y avait par exemple le pouvoir du parti. Ensuite, il y avait le pouvoir des SS. Ensuite, il y avait le pouvoir de telle administration, telle ou telle agence, on dirait à l'heure actuelle, et il s'en est créé, non pas une, non pas cinq, non pas six, mais il s'en est créé des dizaines. Alors, bien entendu, il y a là, entre autres, la technique classique des dictateurs qui veulent diviser pour régner, donc on ne crée pas quelque chose de trop uni, parce que quelque chose de trop uni peut tout simplement s'unir pour remplacer la personne singulière du dictateur, alors que si dans les gens qui vous obéissent, tout le monde se tire dans les pattes, il y a plus de chances qu'ils se combattent entre eux plutôt qu'ils ne vous combattent vous. Bien entendu, cette polycratie, on peut aussi la ramener à quelque chose de très simple, la féodalité. Le nazisme, à plein de points de vue, c'est le retour de la féodalité. Vous allez me dire, le rapport entre le management et la féodalité, ben, il est évident. Les PDG d'une entreprise, ben, c'est les nobles. C'est ceux qui ont les nobles exploitent une terre, les PDG exploitent une entreprise. Vous allez me dire, oui, mais il y a les monopoles. Ben oui, c'était pareil pour les aristocraties. Dans plein de pays, il y a eu des très très grands aristocrates. J'en veux pour exemple la Grande-Bretagne, où je rappelle qu'à l'heure actuelle en Grande-Bretagne, j'ai vu la statistique, je crois que 40% de la surface de la terre du Royaume-Uni, hein, l'espace du Royaume-Uni, est possédé par 0,4% de la population. Je rappelle qu'il y a des quartiers entiers de Londres qui techniquement appartiennent à tel ou tel duc. Et puis cette polycratie, eh bien, ça correspondait à leur histoire de darwinisme social. Et lui, Chapoutot, estime que c'était un darwinisme spontané et inconscient, mais ça colle très bien cette idée que tout le monde doit se battre pour pouvoir survivre. C'est là quelque chose qui, évidemment, colle complètement à l'idée du national-socialisme de M. Adolf Hitler. Et j'essaie désespérément de faire un signe à Zorion. Vas-y, Zorion, si tu peux. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. La musique, c'était évidemment Vivaldi toujours, un des concertos pour mandoline, et c'était l'Allegro, j'aime bien l'Allegro, c'est allègre l'Allegro. Et nous sommes toujours dans le Proton sur Bif avec Zorion à la technique. Nous continuons à parler du livre de Johann Chapoutot, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. C'est paru dans la NRF, NRF Essai, chez Gallimard, bien entendu. Chapoutot nous rappelle ceci que, entre autres choses, dans l'ADN ou dans l'arbre généalogique du nazisme, il y a trois idéologies qui se sont extraordinairement développées, voire qui sont complètement apparues, au XIXe siècle. Un, ce darwinisme social dont nous venons de parler. Deux, le racisme. Alors, un racisme théorisé, un racisme idéologique, et je rappelle là-dessus que malheureusement, eh bien, le racisme nazi précise la supériorité des blancs sur les bruns, puis évidemment des blancs sur tout le reste, c'est une idée française, puisque c'est un noble français qui a eu l'idée bizarroïde, en gros sous Louis XIV, à peu près Louis XIV, Louis XV, il voulait expliquer la supériorité de la noblesse sur le reste, et il a dit, mais les nobles, ce sont les anciens francs, hein, les francs qui nous ont envahis, et comme les francs étaient des germains, c'était des blonds. Donc les blonds sont supérieurs, donc nos Gaulois, nos Celtes, par définition, devaient être bruns, et par conséquent, c'est la supériorité des blonds sur les bruns. Évidemment, après, quand c'est arrivé en Allemagne, vous pensez bien que ça a été pain béni, et c'est devenu ces théories racistes démentielles, d'ailleurs étendues par M. Chamberlain, pas Neuville-Chamberlain de Munich, un autre Chamberlain, citoyen britannique. Glissons. Donc, première théorie, première tradition et idéologie du 19e siècle, darwinisme social. Deuxième, le racisme. Et la troisième, absolument typique du 19e siècle, l'eugénisme. Alors, je rappelle ce que c'est que l'eugénisme. C'est l'idée qu'on peut améliorer l'espèce humaine de manière biologique. C'est-à-dire, non pas de lutter contre les maladies, mais de faire en sorte que naissent des êtres humains supérieurs, plus grands, plus forts, plus résistants, plus intelligent, plus ceci, plus cela. C'est-à-dire appliquer à l'espèce humaine ce que nous, les êtres humains, nous faisons aux espèces animales. Je rappelle que, par exemple, toutes les espèces de chiens, sans exception, descendent à cause de l'intervention humaine du loup. Tous les chiens sont des descendants du loup, et toutes les races de chiens, sans exception, sont des créations humaines. Vous allez me dire, bon ben c'est très bien, darwinisme social, racisme, eugénisme, voilà les racines du nazisme, quel rapport avec le management? Mais c'est évident. Ces trois horribles traditions continuent aujourd'hui. Elles prospèrent même aujourd'hui. Prenons le darwinisme social, l'idée qu'il faut absolument combattre pour tout, que rien n'est jamais donné, que l'entraide ne sert à rien, et que seule la lutte, la guerre, le conflit, permettent de survivre et de vivre. Eh bien, en termes modernes, ça s'appelle la concurrence, le marché. Qu'est-ce que c'est que le marché selon ces idéologues? C'est une concurrence constante pour, souvenez-vous, des ressources rares. On a simplement un petit peu modifié les mots, mais l'idéologie derrière, la vision du monde, est exactement la même. Prenons ensuite le racisme. Alors là, ça va être un peu plus subtil. Le racisme, c'est l'idée qu'il y a des êtres humains qui sont biologiquement supérieurs à d'autres êtres humains. Bon, vous allez me dire, le rapport avec le management aujourd'hui. Attention, là c'est un petit peu subtil, mais écoutez bien. Il semblerait qu'aujourd'hui, en 2024, la supériorité qui soit admise, eh bien elle est admise grâce à l'éducation. Si je suis un énarque et un polytechnicien, en gros, la société admet que je sois supérieur à un ouvrier qualifié. Bon, déjà en soi, l'idée est passablement discutable, même plus que passablement. Mais ce qui se passe dans le monde actuel, et ça a été également pointé dans un autre livre dont je parlerai peut-être, « La lutte des classes au XXIe siècle en France » d'Emmanuel Todd. Il y a une espèce de perversion et d'exagération de la méritocratie, notons le mot « cratie » là-dedans. Cette perversion de la méritocratie, c'est de penser que d'un côté, il y a les gens intelligents, puis de l'autre côté, il y a les cons. Et comme par hasard, il se trouve que si on est riche, si on est puissant, si on est un manager, eh bien, on se place bien évidemment du côté des gens intelligents. Et l'ouvrier, la balayeuse, l'aide-soignante, tous ces gens-là, inférieurs socialement, inférieurs fonctionnellement, eh bien, sont vus comme également inférieurs, en tout cas intellectuellement, et en général dans l'esprit de des gens qui croient ça, leur prétendue infériorité intellectuelle serait due à une infériorité biologique. Très souvent, ces gens-là croient qu'on est intelligent naturellement, que l'intelligence est entièrement due à l'ADN, et que, par conséquent, les diplômes ne sont que l'identification des gens qui sont biologiquement supérieurs. Et puis, la troisième tradition qui a donné naissance au nazisme, c'est l'eugénisme. Donc, l'eugénisme, je rappelle, le fait de vouloir améliorer, biologiquement parlant, l'espèce humaine. Vous allez me dire, ça, non, quand même, t'exagères, Nestor, il n'y a pas d'eugénisme dans le management moderne. Quoi ? Vous avez entendu parler du transhumanisme ? Vous avez entendu parler de Elon Musk qui voudrait implanter dans le cerveau des gens des puces électroniques, qui souhaiterait qu'on puisse, comme ça, avoir Internet dans notre cerveau. Le transhumanisme, c'est quelque chose qui est tout à fait apprécié par un grand nombre de grands pontes de la Silicon Valley. À nouveau, Elon Musk, que je rappelle, et de temps en temps, il est l'homme le plus riche du monde quand c'est pas Bernard Arnault ou Warren Buffett. Et Elon Musk et Peter Thiel, le gars qui est derrière PayPal, sont des gens qui adorent absolument le transhumanisme. Et cet eugénisme, je le rappelle, a été l'un des crimes du nazisme. Et là-dessus, Chapoutot nous rappelle le lien entre ce côté, cette polycratie nazie, et ce qu'il voyait comme l'État, comme le rôle, comme il le voyait, négatif de la loi et de l'État. Voici la citation de Chapoutot. L'État assume un rôle contre-sélectif ou anti-sélectif qui fait prospérer le malade et l'incapable, bref, le malsain, au détriment du sain. Dès les années 1880, le chancelier Bismarck, inspiré par les doctrines de justice des piétistes protestants, mais aussi par les socialistes qu'il était soucieux de dévitaliser en asséchant leur base électorale, Bismarck avait instauré en Allemagne des assurances sociales hautement problématique, là c'est moi qui parle, évidemment aux yeux des nazis. Hein. Le chômeur, cet oisif professionnel, était encouragé dans son vice, au lieu d'être abandonné à son sort, c'est-à-dire à une revigorante famine qui lui apprendrait enfin à vivre et à travailler. Quant aux malades héréditaires, ils se trouvaient protégés par une législation qui, au rebours de tous les acquis de la science, permettait, voire imposait leur survie, leur croissance et leur multiplication. Alors que des familles allemandes saines et laborieuses vivaient dans la misère de leurs taudis, des trisomiques, des paraplégiques ou des hydrocéphales prospéraient dans des hospices luxueux, financés certes par la charité privée le plus souvent, mais suscités par une législation d'État antinaturelle car contre-sélective, la propagande nazie est sur ce thème intarissable. Et ça, souvenons-nous, les nazis ont agi là-dessus. Ils ont tout d'abord commencé par l'idée que si on avait une tare biologique quelconque, eh bien, il fallait être stérilisé. Donc il y a eu au moins 400 000 stérilisations forcées sous l'État nazi. Et puis très rapidement, ils se sont dit quand même, on va pas nourrir tous ces inutiles. Et je rappelle que les exterminations nazies n'ont pas commencé avec les Juifs. Elles ont commencé bien plus tôt, en Allemagne même, où on envoyait les trisomiques, les paraplégiques, les vieillards séniles, etc. Les nazis ont vidé les hospices pour envoyer les gens qui y étaient dans le dans les camps de concentration. Alors, au début, excusez-moi, c'était pas les camps de concentration. Au départ, ils n'étaient pas encore créés. Auschwitz n'était pas encore créé. On a beaucoup utilisé le gaz d'échappement dans des véhicules. Hein. On faisait monter les trisomiques, par exemple, dans un véhicule. On fermait tout. On modifiait l'échappement qui arrivait à l'intérieur du camion et non pas à l'extérieur. Et bien entendu, une demi-heure, une heure après, on rouvrait le camion et dedans, tout le monde était mort. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ne nous pend pas au nez du management aujourd'hui, puisque maintenant le management est ravi de vendre toutes les choses qui peuvent aider les paraplégiques, etc. Mais on sent bien que, par exemple, dans le gouvernement Macron, on sent parfaitement l'idée que tous ces gens-là sont inutiles. Hein, vous connaissez comme moi la célèbre citation du pognon de dingue de Macron. On dépense un pognon de dingue pour les chômeurs. Vous savez comme moi qu'en ce moment, les indemnités de chômage vont être réduites, la durée de perception des indemnités de chômage va être réduite, que depuis que Macron est au pouvoir, ça devient de plus en plus difficile de s'inscrire au chômage, que les agents de Pôle emploi, qui maintenant s'appellent France Travail, si j'ai bien compris, sont poussés à radier le plus possible les gens, de trouver les méthodes pour pouvoir radier les chômeurs qu'ils seraient censés pourtant aider. Et on pourrait continuer fort longtemps à décrire ces points communs entre le management et le nazisme, mais je vous recommande la lecture de cet ouvrage, et puis je vous recommande la lecture d'un autre ouvrage, qui n'est pas non plus particulièrement difficile à trouver, qui est dans les PUF, donc les presses universitaires de France, dans la collection qui s'appelle Psychologie sociale, et le titre, ça s'appelle La soumission librement consentie. Alors, évidemment, un titre pareil, en tant qu'anarchiste, je me suis dit, mais c'est un livre intéressant. Alors, ce qui est dommage avec le livre La soumission librement consentie, c'est que c'est moins général, du point de vue politique, mais ça nous rappelle que ce management d'aujourd'hui prostitue les sciences humaines pour trouver toutes les méthodes possibles et imaginables pour faire aux gens ce qu'ils ne feraient pas d'eux-mêmes. Dans ce livre, La soumission librement consentie, c'est assez curieux, le titre est décidément trop ample, trop large, on parle énormément de ce qu'on appelle la psychologie de l'engagement. Alors qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'engagement ? C'est une astuce très très simple. On s'est aperçu de quelque chose. Si on donne des ordres aux gens, et qu'en particulier on n'a pas tellement les moyens de leur faire un peu peur en leur donnant ces ordres, on va peut-être faire en sorte que les gens vont obéir à l'ordre pendant un certain temps, mais ça va être un temps bref, déterminé. Si on veut que les gens entrent plus à fond dans ce qu'on veut leur faire faire, en particulier si on espère qu'on va pouvoir ne plus seulement leur donner des ordres, mais qu'eux-mêmes vont prendre éventuellement des initiatives, eh bien la technique est très simple. La technique, c'est d'arriver et de dire, Zorion, vous êtes totalement libre de faire la technique dans un studio de Radio Libertaire. C'est votre choix. Mais, Zorion, promettez-vous librement de faire la technique dans les studios de Radio Libertaire. Alors Zorion, il dit, ouais, je vais faire la technique dans les studios de Radio Libertaire. Bon, vous avez gagné quelque chose. Quelques jours après, vous revenez, puis vous dites, Zorion, vous voudriez faire la technique, parce que vous comprenez, c'est tellement bien ce que vous faites, vous voudriez faire la technique tous les jours, au studio de Radio Libertaire. Et là, comme vous avez mis le doigt dans l'engrenage, il y a des chances pour que vous acceptiez quelque chose qui va être de plus en plus lourd et de plus en plus engageant. Alors, dit comme ça, dit dans ce contexte, on se dit, Zorion, il va me regarder, il va me dire, technique tous les jours, ça va pas à la tête. Eh bien, en réalité, ça marche extrêmement bien. Et ce livre, La soumission librement consentie, de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois au PUF dans la collection Psychologie sociale, nous montre que c'est une technique qui est utilisée absolument constamment par des centaines d'organisations et d'institutions différentes, et que, désolé, ça marche. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. La musique, c'était toujours Vivaldi, l'Estro Armonico, le concert numéro 10, et bien entendu, comme mouvement, c'était l'Allegro. Les musiciens étaient toujours I Solisti di Zagreb. Et c'est la fin du Proton, ce rebiff, où nous avons parlé du livre de Johann Chapoutot, « Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui », paru chez dans la collection NRFSC chez Gallimard, ainsi, brièvement, que du livre « La soumission librement consentie » de Robert Vincent Joux et Jean-Léon Beauvois, dans la collection « Psychologie sociale », paru chez les PUF. Et je voudrais terminer en rappelant deux, trois petites choses, dont l'une que j'ai découverte dans le livre de Johann Chapoutot. Donc j'ai mentionné un peu plus tôt que l'entrée du camp d'Auschwitz y avait marqué « Arbeit macht frei », le travail rend libre, évidemment une ironie absolument d'une cruauté sans limite. Mais je ne connaissais pas la devise qui était à l'entrée d'un autre camp horrible, Buchenwald. Eh bien, à l'entrée de Buchenwald, il y avait « Jedem das Seine », à chacun son dû. Et cette phrase, qui semblerait d'une parfaite justice, est en réalité une phrase d'une grande cruauté, qu'on peut opposer à quelque chose, à une phrase, espérons-le, tout aussi célèbre et qui est bien plus agréable à des oreilles anarchistes, « à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses moyens ». Alors que cette formule « à chacun son dû », on voit avec quelle facilité elle pourrait être utilisée pour justifier, à partir du moment où, par exemple, on est en plein dans une idéologie raciste, eh bien, l'extermination qui avait lieu dans ce camp de Buchenwald. Et je veux terminer avec ce rappel qui nous ramène en France, que Maurice Papon, qui fut l'un des abominables collabos sous Pétain, sous Vichy, et qui est donc responsable en partie de la mort des Juifs envoyés dans les camps de la mort de France en Allemagne, eh bien ce Maurice Papon, il a été aussi président d'une grande entreprise française. Le saut de la collaboration au management, ça n'était pas une exclusivité nazie, mais nous les Français, ça nous est arrivé aussi. Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Tentative d'évasion, la prison quadrillée, niquée par les képis, des matons, des catis, quasiment déphasés, plaidoirie kamikaze, l'avocat dégoûté, lui manquait quelques cases, système pénitentiaire, condamné l'accusé, à purger l'eau de peine. Casser des cailloux à Cayenne. 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 Casser des
une chanson qu'on ne présente pas dans le coin, puisque elle parle de la banlieue sud.
Elle fait du porte-à-porte au périph' de Paris. Elle cerne d'un trait l'œil de la capitale. Elle est de la ceinture rouge qui pâlit. La banlieue sud n'est pas dite méridionale. On a l'accent poulbeau et des airs de titi. La casquette en arrière quand on sort d'un troquet. On est d'une cité depuis qu'on est petit. Et l'on est amarré comme un navire au quai. La terre n'est pas celle grasse du terroir. Nos racines ont poussé dans des squares clairsemés. Et pourtant nous aussi, nous avons une histoire riche de ces cultures qui se sont rencontrées. Qu'on soit de ces parents dont Paris ne veut pas, ou de ceux-là venus d'ailleurs et de plus loin, on a l'argot un peu comme on a un patois ou un espéranto pour parler aux copains. Ces copains qui partagent outre l'incertitude des combines douteuses et des astuces franches, le risque d'un chaume nu qui devient l'habitude, l'hebdomadaire ennui qui revient le dimanche. Le soir, quand à la fin du film, la rue s'anime pour des maîtres bergers et des chiens allemands, des teckels d'exception y font la triste mine et la lucarne bleue fait la place aux amants. On s'aime un peu partout, comme on s'aime autre part, dans les caves aussi on soupire et pourtant, plus qu'elle n'abrite, elle cache au petit hasard des amours buissonnières, des drames débutants. Jamais un roi ne l'a donné pour un cheval, sans valeur ou sans prix, qu'on dise comme on veut. Je me surprends quand on me croit de la capitale à répondre un peu fier. Je suis de la banlieue.
Here, fear no fear, look and tell me what you see. It has no name, has no brain, it's a bloody mystery. Can be saved, can be tamed, never really can be free. Selfish bait, fetish fate, still is a part of me. Let the sun get in your eyes and the sand surround your thighs. The tide is coming to see, the tide is coming to see. See how fast I disappear and how well I control my fear. Lose it all and dance with me, lose it all. Come right here, stop at me, turn the light up, now you see how I rave, misbehave, guns and blades inside of me. Feisty flame, cherry fang, celebrate our victory. Open gate, contemplate, first ambush me, then we'll see. Lose what remains of your brain, lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain, lose what remains. Lose what remains of your brain, lose what remains of your brain. Lose what remains of your brain, lose what remains of your brain. Whoa. Let the sun get in your eyes.
chaque fois qu'éjacule le fascisme ordinaire, celui qui rend le sourire aux actionnaires, terrorisé par les anarcho-autonomes qui voudraient libérer les déviants du génome. On voit disparaître le plaisir de l'instant, remplacé illico par la terreur d'un présent et d'un futur qui se rêve au passé, privé des imprévus qui les font angoisser. Torrides passions qui toujours aboutissent au plus profond de bien étranges abysses. L'amour de la mort et la mort du père, alors qu'enfin soumis les vaincus désespèrent, serviles supplétifs forgeant leur propre chaîne. Il ne faut pas compter sur eux pour la prochaine, la révolution ou même la révolte. Comme ils ne sèment plus le néant, les récoltes. Rien n'a changé, ni les mots ni les choses. La talente affronte encore les mêmes névroses. La voix de son maître admire extatique la médiocrité d'une fiction pathétique. Comme l'impuissance règne, il faut brasser de l'air et flagorner le peuple pour noyer sa colère. L'identité du clan devient l'unique urgence. Les parano-parades promettent la vengeance quand ils répandent la vérité cathodique à grands coups d'unité de bruit médiatique. Ils renforcent encore l'ignorance disponible, transplantant l'imposture dans le cœur de leurs cibles. Naïfs, bâtissant les murs de leur prison, fiers d'être devenus leur propre maton. Les aliénés dociles tournent en rond et au pas dans des cellules grises dont on ne s'évade pas. Comment décrire ces charognards qui racolent, les losers exsangues abrutis par la picole, le cerveau vitrifié par les psychoactifs. Devant un tel cynisme, je manque d'adjectifs. Ces dealers d'illusions collabos du système et leurs marionnettes psalmodiant l'anathème se croient illégalistes quand ils sont l'attraction produite par la police et par la réaction. La pauvre crasse prétend ouvrière dans la bouche mythomane de hableurs bipolaires. Les rebelles factices cachent derrière leur profil des amoureux foulés de poseurs homophiles. La haine de soi se regroupe en tribus qui parlent fort des exploits qu'elles s'attribuent. Pourtant c'est le suicide qui guette solitaire ces clones décérébrés par la logique militaire. Quand je dis non, je ne renonce pas. Me taire, serrer, laisser croire que je ne juge pas. La conscience s'éveille avec la révolte, celle qui concrétise la colère qu'on récolte. Mais si penser, c'est déjà désobéir, nos seules intentions ne permettent pas d'agir. Il manque encore le courage et l'intelligence qui nous donneront la force de répondre à l'urgence. En choisissant la vie contre le sacré, c'est avec joie que nous allons blasphémer, nous délivrer de Dieu pour délivrer le monde et détruire les gamètes de la bête immonde. Ce n'est pas seulement la vie que nous voulons, c'est également son sens et ses raisons. Et que je sois une femme ou un homme, je me révolte, donc nous sommes.
Radio Libertaire 89.4.
Le ciel bleu sur le Saint-Laurent semble jaillir de l'océan. Et je me refais la banane, les yeux masqués sous mes rébanes. 2700 tours cap nord-est, balise à l'ouest d'Halifax, Nouveau-Brunswick, je fais de mon best pour me recentrer sur mon axe. Fox, Québec, November Hotel, je gèle barède dans mon dornier. Fox, Québec, November Hotel, ok, je monte à 2000 pieds. Direction Saint-Pierre-et-Miquelon, je slobine face à la mousson. J't'offre les ranchers sur le go. Pas d'équerre dans mon lumbago. Faut que je pense à mes aiguillages, à ma benzine, faut que j'abreuve mes 700 chevaux dans les nuages avant la tempête à Terre-Neuve. Fox Québec, November Hotel, je gèle ma raide dans mon dornier. Fox Québec, November Hotel, ok, je monte à 2000 pieds. Fox Québec, November Hotel, je gèle ma raide dans mon dornier. Ok, je monte à 2000 pieds. Allô, y'a quelqu'un à Saint-Pierre? Je suis passé en vent arrière. Je me pointe en approche finale dans l'angle septentrional. Alertez la morue joyeuse. Dites-leur que le fantôme d'Al Capone cherche un taxi et des chauffeuses pour aller danser à Chagall. Fox Québec, November Hotel, je gèle ma raide dans mon dernier. En Fox Québec, November Hotel, ok, je suis prêt à m'atterrer. Fox Québec, November Hotel, je gèle ma raide dans mon. Ok, je vais finir à pied.
cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, Le Saint-Cyput plaqué de harniosités vagues, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans leurs amours épileptiques leurs fantasques ossatures aux grands squelettes noirs, et leurs pieds à leurs chaises aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des ponts éculottés de brun, la paille cède à l'angle de leurs reins. L'âme des vieux soleils s'allume emmaillotée dans ces tresses d'épis où fermentent les grains. Et les assis genoux aux dents vers le pianiste, les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Ne les faites pas lever, c'est le naufrage, ils surgissent grondant comme des chats giflés en ouvrant lentement leurs omoplates au rage et leurs pantalons bouffent à leurs reins pour souffler. Et vous les écoutez cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Puis ils ont une main invisible qui tue. Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue et vous suez pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, et de l'aurore au soir, des grappes d'amidales sur leur menton chétif s'agitent à crever. Ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de sièges en lisière par lesquels de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant, des pollens en virgule s'agitent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules et leurs membres s'agacent à des barbes d'épines.
C'est du silence à pleuvoir des couteaux. J'étais petit, j'avais pourtant de la jugeote. Je dévorais Tintin comme la plupart de mes potes. En me disant tout bas, ce type-là est trop fort. En découvrant déjà qu'on me cachait la mort. Milou, Milou, mais pas Tintin. J'étais déjà marlou, mais pas crétin. Doracam le rouge en secret de la licorne. Ce puceau à houppette était bien trop surhomme. Et pourtant nulle fille à genoux à ses pieds. Aucune tête blonde dessus son oreiller. Haddock, Haddock, mais pas Tintin. Je me sentais pas Pédoc, plutôt marin. Au pays de l'or noir, avec lui j'appareille. Les deux frères si à moi de la police veillent. Et je riais déjà comme on rit à Guignol. Quand sur les poulaillas pleuvent les coups de grolle. Dupont, Dupont, mais pas Tintin. Je préférais deux flics cons à un malin. Avec le professeur, je marchais sur des lunes. J'aimais déjà les fleurs, tournesol de fortune. Comme lui, j'étais sourd, j'étais frêle et rêveur. On se moquait de lui et j'avais gros au cœur. Trifon, Trifon, mais pas Tintin. J'étais déjà ni à front, mais pas le saint. Chaque année, je relis toutes tes aventures. Tintin, petit Zorro, sans sexe et sans blessure. Et je mesure le mal qu'aux gosses tu as fait. En leur faisant, bon Dieu, croire qu'ils étaient parfaits. Hergé, Hergé, dans tes bouquins. La vedette est sifflée, elle fait Tintin. Hergé, Hergé, dans tes bouquins. La vedette est sifflée, elle fait Tintin. Hergé, Hergé, dans tes bouquins. La vedette est sifflée.